Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à toutes et à tous. Pour bien comprendre notre sujet du jour, il faut commencer par une petite leçon d'anatomie sous forme de métaphore. Imaginons que notre œil soit un appareil photo argentique. Sa partie antérieure permettrait alors de faire la mise au point, de rendre l'image claire. Quant à la partie postérieure de l'œil, la rétine, eh bien ce serait la pellicule photo, l'endroit où s'impriment les images qui sont ensuite transmises à notre cerveau. Et au centre de cette pellicule, donc de la rétine, se trouve une zone minuscule appelée macula, qui joue un rôle essentiel dans la vision des détails, des couleurs, la reconnaissance des visages, la conduite. Bref, une zone indispensable au quotidien, une zone qu'il faut préserver en effectuant un dépistage précoce de toutes les pathologies pouvant l'affecter. Parmi ces maladies, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui provoque la perte progressive de la vision centrale. Première cause du handicap visuel chez les plus de 50 ans, la DMLA affecte près de 30 millions de personnes dans le monde, un chiffre qui pourrait doubler dans les décennies à venir en raison du vieillissement de la population. Alors quand et comment se faire dépister? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Comment freiner la baisse d'acuité visuelle? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, le docteur Raphaël Adam, chirurgien ophtalmologue au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20 à Paris et vice-président du conseil médical d'établissement. Nous serons également en ligne avec le professeur Jeannette Traoré, ophtalmologue à Bamako et conseillère internationale de la Société francophone d'ophtalmologie pour le Mali. Et à la fin de cette émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Raphaël Adam, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je ne suis pas sûr de mes explications sous forme de métaphore photographique, je vous laisse expliquer plus précisément ce qu'est la macula, cette petite zone de la rétine.
Non, mais c'était une belle présentation, très poétique.
Merci.
Et effectivement, la macula, c'est la zone la plus importante de la vision, puisque c'est là où il y a le maximum des récepteurs de la vision, qui permettent effectivement de voir les détails, de lire, de reconnaître les visages, ce qui permet également la vision des couleurs. Et c'est vrai que c'est cette zone-là qui est la plus importante, qui est atteinte dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Alors la DMLA, justement, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, affecte donc cette macula, mais, et c'est là que ça se complique, il existe deux formes de DMLA. Quelles sont-elles? Déjà, il faut dire quelque chose de fondamental, finalement, l'une se soigne et l'autre non, hein, je crois.
Alors tout à fait. Alors tout d'abord, la maladie a commencé par ce qu'on appelle la maculopathie liée à l'âge. Sans dégénérescence, c'est-à-dire qu'on va avoir une accumulation de déchets, de dépôts qui sont des dépôts blanchâtres, hein, qu'on voit bien au fond d'œil, que l'ophtalmologiste voit bien. Et ces dépôts vont être posés à l'intérieur ou autour de la macula. Et le plus souvent, à cette phase-là, les patients ne s'en rendent pas compte parce qu'il n'y a pas de symptômes, pas de manifestations. Parfois, ils peuvent voir des petites déformations des lignes droites, ce qu'on appelle les métamorphopsies, et des taches floues parfois. Donc cette maculopathie, elle peut rester stable tout au long de la vie. Néanmoins, dans environ la moitié des cas, et sous l'influence de plusieurs facteurs, on y reviendra peut-être, la maculopathie va évoluer en forme dégénérative plus tardive. Donc là, effectivement, c'est les deux formes de dégénérescence maculaire liée à l'âge, la forme atrophique et la forme humide.
Mais est-ce qu'on peut devenir aveugle ou pas? Ou c'est juste une dégénérescence?
On peut devenir malvoyants. Hein. C'est l'une des causes de cécité légale, avec une acuité visuelle qui est une vision qui est inférieure à un dixième. Donc c'est un handicap, mais on ne devient pas aveugle, c'est-à-dire on perd
pas totalement la vue,
finalement. La vision. On garde la vision périphérique.
Est-ce que la DMLA affecte un seul œil ou les deux? Est-ce qu'on peut avoir une forme mixte de DMLA?
Alors, dans près de 50% des cas, en fait, à 5 ans, en fait, la DMLA se bilatéralise. Quand on a développé une DMLA d'un œil, effectivement, dans l'évolution, très fréquemment, on a une atteinte du second œil qui arrive dans les années.
Alors, c'est une maladie assez mal connue. Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter, docteur Adam?
Alors, ils sont un petit peu variables en fonction des deux formes de DMLA. Effectivement, la forme DMLA atrophique, qui est une forme d'évolution lente sur une dizaine d'années, où le patient va avoir un petit peu plus les capacités de s'adapter au handicap, puisqu'il apparaît progressivement. Dans cette forme-là, c'est essentiellement une baisse de vision progressive avec l'apparition de taches, hein, de zones de déficit de vision, de zones où on ne voit plus. Pour la forme néovasculaire, c'est-à-dire c'est une forme où il y a des nouveaux vaisseaux qui sont anormaux, qui vont apparaître sous la rétine, dans cette zone importante pour la vision. Dans cette forme-là, en fait, ces vaisseaux vont évacuer du liquide sous la rétine, parfois du sang, et ce qui va provoquer des manifestations qui apparaissent souvent un peu plus rapidement, un peu plus brutalement, avec l'apparition de déformations. C'est les fameuses lignes déformées. Je pense qu'il y a à la télévision, on en parle un petit peu. Il y a des spots à ce sujet. Et c'est cette forme-là qui est traitable, où on va être amené à réaliser des injections dans l'œil de produits qui permettent de tuer un petit peu ces néovaisseaux et limiter les séquelles.
Alors on va revenir évidemment sur les traitements, mais d'abord je voudrais qu'on accueille un premier auditeur qui nous appelle de Fécamp en Normandie. Il s'agit de Claude qui a 82 ans. Bonjour Claude.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Claude. Je vais aller dans le vif du sujet. Dans quel contexte avez-vous été diagnostiqué? Pourquoi êtes-vous allé consulter un ophtalmologue, finalement?
Disons que, j'étais un très grand sportif. Hein. J'étais marathonien, je faisais beaucoup d'ascensions.
De trekking, vous avez fait le Kilimandjaro, la Cordillère des Andes, un grand sportif.
La traversée du Sahara, etc., plein d'autres comme ça, les GR20, j'ai fait, en préparation de grand trek, j'ai fait le GR20, vous connaissez le GR20?
Le GR20 en Corse, qui traverse toute la Corse, bien sûr, magnifique trajet.
Super, j'ai fait toutes les ascensions possibles dans la Corse, vous voyez. Mais où je me suis rendu compte vraiment, c'est à 70 ans que j'ai fait le Kilimandjaro, et à 72, j'ai attaqué la Cordillère des Andes. Et quand on fait une ascension de plus de 6000 mètres, on monte par palier pour nos globules. Hein. Et la finition se fait de nuit, c'est-à-dire qu'on monte avec une frontale. Montant avec une frontale, moi j'ai fait plusieurs chutes, déjà dans le Kili, j'ai fait plusieurs chutes, mais là, dans la Cordillère des Andes, j'ai fait des chutes assez importantes, et mes collègues qui étaient avec moi m'ont dit « Claude, t'as un problème ». Et de là, je me suis rendu compte que j'avais un problème visuel, mais je voulais pas l'avouer. Et là, j'ai été voir un ophtalmo qui m'a dit, on va vous opérer de la cataracte, et ça va aller après. Et puis, il s'est rendu compte, il m'a dit, non, c'est pas la cataracte, vous avez la DMLA.
Alors, Claude, restez avec nous, hein, justement. Docteur Raphaël Adam, c'est important. Est-ce que la DMLA est compliquée à diagnostiquer? Est-ce qu'on peut comprendre qu'un ophtalmologue ait cru que c'était un problème de cataracte, alors que pas du tout?
Alors tout dépend de l'importance de la cataracte. C'est vrai que la cataracte peut quand elle est importante, peut masquer un petit peu les détails du fond d'œil. Donc ce qui a certainement été le cas dans ce témoignage. Donc lui en l'occurrence, je pense qu'il avait une forme plutôt atrophique parce que visiblement il parle pas d'injection dans les yeux. Donc c'est une forme effectivement d'évolution lente, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. D'où peut-être le fait qu'il ne soit, s'en soit pas vraiment rendu compte du fait de l'évolution très progressive.
Claude, justement, comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a annoncé le diagnostic? Est-ce que vous connaissiez cette maladie? Comment ça s'est passé?
Je connaissais pas du tout cette maladie, mais moi, de toute façon, j'entends le docteur Adam qui parlait, mais j'ai eu quand même 25 injections.
Alors, au cours de votre traitement, donc, c'était des injections dans l'œil, c'est ça?
Dans l'œil, oui, oui. Mais ça fait peur aux gens, mais c'est pas douloureux du tout. Hein. Il y a plus de trouilles qu'autre chose. Hein.
C'est de la trouille. C'est sûr qu'une piqûre dans les yeux, dit comme ça, c'est pas forcément rassurant.
Oui, mais si vous le faites avec un ophtalmo qui connaît bien son travail, qui est très consciencieux, avec des infirmières qui vous aident aussi, non, il n'y a aucun traumatisme psychologique de ce côté-là. Et je lui dis, c'est là que je me suis rendu compte en attention qu'il y avait un gros problème. Et là, on a soigné, mais les piqûres ne m'ont absolument rien fait. Rien du tout.
D'accord, mais les traitements, docteur Adam, c'est efficace, les piqûres dont parle Claude, c'est un traitement efficace, logique?
C'est le traitement, peut-être qu'il n'a pas été révolutionnaire pour Claude, mais ce qui permet vraiment de diminuer de 50% l'incidence de la cécité dans la DMLA. Donc, c'est vrai que c'est le bon traitement. Alors après, je ne sais pas si Claude a conservé une acuité visuelle, enfin une vision. Quelle est son acuité visuelle?
On va lui demander. Claude, quelle est votre acuité visuelle, justement, demande le docteur Adam.
Déjà, un œil, j'ai perdu quasiment un œil, l'œil droit, et l'autre est en train de se dégrader en ce moment. Voilà,
Vous avez une idée, c'est-à-dire, est-ce que vous avez 2/10, 3/10? Non,
j'ai environ... celui de droite, c'est mort. Là, j'ai... C'est noir. Et celui de gauche, j'ai 3/4 dixièmes. Plus question de conduire, ni rien du tout maintenant. C'est un traumatisme psychologique important.
C'est vrai que, malgré tout, ces traitements lui ont permis de conserver ses 3/4 dixièmes. Alors, ce qui est beaucoup, mais jamais suffisant, c'est sûr, mais c'est ce qui lui permet de conserver une certaine autonomie actuellement. Donc, on peut pas dire totalement que le traitement a été inefficace, comme il a dit. Mais même si je comprends qu'il préférerait, effectivement, c'est handicapant de plus pouvoir se conduire, etc.
Claude, vous savez...
S'il n'y avait pas eu ce traitement, l'évolution de cet œil aurait été la même que de l'autre côté.
Bien sûr. Claude, vous avez parlé de choc psychologique. Hein. Justement, quelles sont les conséquences de la maladie dans votre vie de tous les jours? J'imagine que pour le sport, pour la pratique du sport à haut niveau, comme vous en avez fait, ça peut être problématique, mais expliquez-nous un peu comment vous adaptez à la maladie aujourd'hui.
Disons que dans la vie, je pense qu'il faut se battre. Hein. La vie est un combat permanent et il faut se battre. Alors je vous dis, moi, d'une chose, il y a des choses qui peuvent être encore pires que ça. Je connais des gens qui sont malvoyants et sont paraplégiques. C'est atroce. Hein. Et moi, je me bats tous les jours, j'essaye, mais j'ai des gens autour de moi qui sont adorables, qui m'aident justement à dominer. Montouille s'est rendu compte que ma pression a baissé, ma pression dans ma tête a baissé. Il m'a mis sous antidépresseur, parce qu'il s'est rendu compte que j'allais péter les plombs, si vous voulez. C'est très difficile de...
Ça joue sur votre morale, c'est ça ?
Énormément, énormément. Quand vous êtes battant comme je l'étais, et vous vous sentez vraiment diminué, vous dites, qu'est-ce que je fais sur Terre ? Je suis une tare ou quoi ? Et là, faut se battre. Et mon Toubi, qui est un copain, il m'a dit, on va s'occuper de toi, Claude. On va s'occuper de toi. On va t'aider à te battre avec toi.
Voilà, oui, parce que vous n'êtes pas une tare, Claude. Nous, on est ravis de vous avoir en direct. Docteur Adam, est-ce que, justement, ces formes de dépression suite à une DMLA, pardon, sont fréquentes ? Ça arrive souvent, ça ?
Oui, c'est sûr, parce que on sait que le retentissement de la DMLA sur les indices de qualité de vie, on a coutume de dire que c'est équivalent à celui d'un cancer ou d'un AVC. C'est-à-dire il y a un risque de perte d'autonomie, un risque de chute, comme il nous l'a expliqué, effectivement un risque de syndrome dépressif. Alors moi, j'ai souvent tendance à insister sur l'importance aussi de l'entourage qui doit être soutenir le patient, parce que c'est une phase un petit peu difficile. Hein. On dit souvent que la vue, c'est la vie, mais c'est tellement vrai quand on est soi-même atteint de pathologies de ce type. Hein.
Bien sûr. Claude, vous avez longtemps refusé l'utilisation d'une canne blanche. Pourquoi?
Oui. Alors, je refusais parce
c'était stigmatisant pour vous, pourquoi?
Voilà, voilà. C'était stigmatisant. Et moi, j'ai une amie qui est aveugle. Je l'ai poussée à avoir une canne blanche. Elle a pris une canne blanche. Et moi, je ne cache pas, elle m'en a commandé une. Et j'ai reçu une canne blanche, j'en ai une. Je vais la prendre parce que j'ai fait plusieurs chutes. Déjà à la maison, si vous voulez, j'ai une cave. Il y a 19 marches pour y descendre. Je suis descendu en galipette, j'ai dégringolé 19 marches. Parce que j'avais raté une marche, j'avais perdu la marche, voilà.
Ah oui, donc
il n'y a pas longtemps, je suis tombé dehors. Je me suis écroulé sur le bord du trottoir. Vous ne voyez pas des petites aspérités, vous ne les voyez pas? Non, non, c'est... Oui, j'ai une canne blanche, je ne suis pas encore servi. Mes amis voudraient que je m'en serve, que j'apprenne en main. Dont le professeur Cartier qui est à Paris, il voulait que j'apprenne, mais je vais l'apprendre parce que c'est pas possible. Hier j'ai été voté parce que c'était les élections
et
on est obligé de me prendre par la main si vous voulez. Vous voyez pas un peu que je deviens quoi? Je deviens nul là.
Mais non, faut pas dire ça à Claude. Et puis il y a toute une génération qui est là pour vous aider, vous prendre la main pour voilà, c'est normal, c'est la solidarité. Voilà. Docteur Adam, vous vouliez ajouter un petit mot?
Juste pour la canne blanche, c'est vrai que c'est toujours un cap à la fois pour l'ophtalmologiste et puis pour le patient. Quand on prescrit une petite canne blanche, c'est quelque part un petit peu le signe d'un échec, parce qu'on aurait voulu quand même pouvoir faire mieux. Mais c'est vrai qu'il faut voir ça surtout comme un élément qui permet de prévenir un peu l'autre que effectivement on a un déficit visuel et que ça soit une voiture ou n'importe qui va faire plus attention et va être plus attentif à la personne, quoi.
Bien sûr. Claude, merci infiniment d'avoir témoigné au micro de RFI, c'était adorable, merci beaucoup.
Oui, je vous ai donné, est-ce que vous avez pris le numéro de l'association DMLA à Paris?
Oui, on sent, on gérera ça hors antenne, si vous voulez bien.
Ouais, d'accord. Je vais la laisser après.
Merci, Claude. Très bonne journée à vous, à Fécamp, en Normandie. Et encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Docteur Raphaël Adam, c'était un témoignage touchant. Hein, c'est pour ça que je tenais à remercier Claude. Quels sont les facteurs de risque de la DMLA? Parce qu'il y en a plusieurs.
Alors, pour les facteurs de risque de la DMLA,
L'âge, évidemment.
L'âge, évidemment, hein, ça, on peut pas revenir dessus. Il y a aussi le tabagisme, hein, qui est fortement lié, associé à la DMLA, puisqu'il augmente le risque de survenue de la maladie d'un facteur 3 à 6. Hein. Donc, ensuite,
ça, c'est important, hein.
Ouais, donc c'est vrai que c'est important de pas fumer, hein, pas que pour la DMLA. Mmh. Ensuite, il y a des facteurs aussi génétiques, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui vont être plus à risque de développer une DMLA, et puis d'autres où on va être plutôt protégé.
C'est quatre fois plus important, c'est ça, si un parent ou un membre de la fratrie en est atteint?
Voilà, tout à fait. On a beaucoup plus de risques, effectivement. Hein. C'est comme nombreuses maladies, comme le glaucome, tout ça. Quand on a des antécédents familiaux, on a plus de risques de développer. D'où l'importance, je dirais, de prévenir en arrêtant de fumer. Et avec aussi des règles aussi hygiéno-diététiques, je pense qu'on on y reviendra plus tard, je crois qu'il y a une session à ce sujet-là. Bah, ensuite, il y a d'autres facteurs comme l'obésité aussi qui peuvent être des facteurs de risque qui doublent en fait également le risque de DMLA. Mmh. Voilà, donc
Mais alors, l'alimentation, vous l'avez évoqué, mais c'est quand même un facteur assez important. Comment on explique les liens entre alimentation et DMLA finalement? Parce qu'avoir une bonne hygiène de vie, ça on le comprend, mais l'alimentation, quel rôle joue l'alimentation?
L'alimentation, elle joue des rôles primordiaux dans nombreuses maladies, hein, que ce soit les cancers ou les maladies oculaires, où effectivement, lorsqu'on a une accumulation de déchets ou si on n'a pas une alimentation équilibrée, il y a certaines zones de l'organisme qui vont pas supporter ça et qui vont entraîner des transformations, alors que ce soit des cellules cancéreuses ou là en l'occurrence les déchets au niveau de la rétine sont toxiques et sont pas évacués. Donc c'est vrai que il y a des besoins importants notamment en oméga 3
Il faut manger du poisson, manger des vitamines, voilà, des fruits et légumes.
Gras, le saumon, le thon, le maquereau, des fruits et légumes, hein, ça on nous le dit souvent, mais effectivement, ça fournit de la lutéine, hein, qui est très bénéfique pour la rétine. Après, il y a des supplémentations vitaminiques qui sont développées par beaucoup de laboratoires, qui sont données dans les formes précoces de maculopathie liées à l'âge, où là, effectivement, ça permet de ralentir l'évolution dans 30% des cas. Donc après, voilà, c'est l'hygiène de vie. Elle va être indispensable pour pouvoir effectivement limiter l'apparition et l'évolution de ces atteintes.
Les enfants, nos parents, nos mamans, si nous avons la santé, on est en joie.
Priorité santé sur RFI.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui provoque la perte progressive de la vision centrale et qui est à ce jour la première cause du handicap visuel chez les plus de 50 ans. Nous sommes toujours avec notre invité, le docteur Raphaël Adam, chirurgien ophtalmologue au Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des 15-20 à Paris et vice-président du Conseil Médical d'Établissement. Alors, docteur Adam, la DMLA est une maladie fréquente, elle touche 10 à 12% des 50-65 ans, 15 à 20% des 65-75 ans et 25 à 30% de la population âgée de plus de 75 ans. Et ces chiffres pourraient encore augmenter en raison du vieillissement de la population. Est-ce que cela vous inquiète ?
Alors, est-ce que ça inquiète ? Effectivement, ça peut être inquiétant, mais malgré tout, c'est bien que l'espérance de
c'est
vie,
la vie.
C'est la vie. Donc après, ce qui est important, c'est surtout les traitements, la prise en charge précoce des atteintes dans la forme humide dont on parlait. C'est que les patients consultent rapidement, hein, à partir du moment où ils voient des déformations des lignes, une baisse de vision, il faut consulter un ophtalmologiste. Hein.
Faire dépister précocement, c'est ça, c'est vraiment agir vite, ne pas attendre.
Généralement, après 50 ans, on conseille de faire un contrôle annuel pour dépister justement ces atteintes.
Parce que la maladie évolue vite, la maladie évolue rapidement.
En fait, la forme humide qu'on sait traiter évolue assez rapidement, hein, puisque en quelques semaines, on peut perdre totalement la vision si on n'injecte pas avec des séquelles qui sont définitives. Donc c'est vrai que quand il y a des déformations, il faut absolument consulter dans les 8 jours. Pour pouvoir débuter un traitement adapté rapidement.
Consultez vite, car comme disent vos confrères, le temps, c'est de la vision. Comment se passe le suivi médical de la DMLA ? Est-ce qu'il s'accompagne d'un suivi psychologique et social ? On entendait Claude tout à l'heure nous parler de sa dépression.
Alors c'est vrai que il y a un suivi à la fois médical, puisque c'est des patients qui vont bénéficier d'injections mensuelles, hein, dans les yeux pour traiter l'atteinte de ces formes humides. Donc c'est des patients qu'on va voir tous les mois. La première année, on injecte jusqu'à 8 fois, hein, en moyenne, donc ce qui est beaucoup. Donc c'est très chronophage pour les ophtalmos, mais aussi pour les patients, parce qu'il y a un rythme d'injection, il y a souvent malgré tout une appréhension de leur part, une appréhension des piqûres. Mais c'est vrai que il y a la part un petit peu psychologique qui est plus une part effectivement d'écoute de notre part, mais il y a aussi de nombreuses associations qui existent justement de patients qui ont déjà la DMLA et qui parlent de leur expérience, qui permet une aide non négligeable pour les patients.
Alors on accueille On accueille, pardonnez-moi docteur Adam, on accueille à présent un deuxième auditeur, hein, c'est Gérard, 78 ans, qui nous appelle de Midi-Pyrénées dans le sud-ouest de la France. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes également membre d'une association Retina. Vous souhaitiez que je le mentionne justement, donc c'est ce que je fais. Parlez-nous brièvement de cette association.
Oui, alors cette association, disons, a pour but de financer la recherche en ophtalmologie. Tous les ans, nous avons un conseil scientifique qui se réunit et qui, disons, parraine, disons, des projets qui leur sont proposés. Et nous essayons de financer au maximum ces projets.
Eh bien, écoutez, c'est une très belle chose. On va venir maintenant dans le vif du sujet. Vous, Gérard, vous avez été diagnostiqué à 42 ans, oui. Ce qui est très jeune, hein, et c'est plutôt rare.
Oui, mais bon, j'ai entendu le médecin qui parlait.
Il est toujours avec nous, hein, il va intervenir, oui, rassurez-vous.
Oui, ben, depuis mon enfance, j'étais un fort myope.
Myopie chez vous.
Très très grosse myopie. Donc, jusqu'à l'âge de 42 ans, bon, j'ai vécu normalement. En plus, j'étais sportif, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de vélo, beaucoup de tennis, et d'un seul coup...
Ingénieur technico-commercial, toujours sur la route.
Voilà. Donc j'ai dû sûrement beaucoup tirer sur ma vue, disons, pour toutes ces raisons. Mais bon, je pense que c'était mon destin, en fin de compte, d'avoir cette maladie. Mais sur le plan de la génétique, j'ai fait une étude, j'ai trouvé personne dans ma famille qui avait cette maladie. Aussi bien du côté de ma mère que du côté de mon père. Mais ça, savait-on vraiment, disons...
Donc sportif, donc vous n'êtes pas fumeur, j'imagine?
Je l'ai été, mais j'ai très vite arrêté.
D'accord. Vous avez une bonne hygiène de vie, vous mangez correctement, plats variés, fruits et légumes, poissons.
Oui, sans aucun problème. Là, je suis bien au courant de toutes ces. Ouais. Alors, oui, j'ai la chance dans ma famille, disons, d'avoir un frère qui est opticien et qui m'a donné, disons, pas mal de renseignements tout de suite. Quoi,
ah bah, c'est sûr que c'est pratique d'avoir un frère opticien. Docteur voilà. Adam, Gérard parlait de sa forte myopie. Est-ce qu'une myopie peut dégénérer en DMLA ou pas?
Alors, la myopie, c'est vrai que c'est une atteinte particulière de l'œil. C'est-à-dire que c'est l'œil myope est un œil qui est plus grand que... un œil standard, on va dire, avec une même quantité de tissu. Donc c'est vrai qu'au niveau de la rétine, les tissus vont être un petit peu écartelés, avec des zones un petit peu de fragilité en périphérie, hein, c'est ce qui donne les déchirures des décollements de rétine. Et la zone postérieure, justement, qui est la macula, qui a tendance, c'est vrai, dans des cas de très très forte myopie, de s'atrophier avec le temps, hein, parce que les cellules sont tellement écartelées qu'elles meurent. Donc, pour le cas de Gérard, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai qu'il y a des formes, il y a des néo-vaisseaux qui apparaissent chez les myopes forts, qui se traitent aussi par des injections, hein, comme dans le cadre de la DMLA, mais qui ne sont pas forcément... alors, c'est une dégénérescence, mais... Alors c'est un terme un peu difficile, je trouve, ce mot-là, qui est un petit peu différent, qui est plus lié à l'étirement de la rétine et à une mort liée à cette cause un petit peu mécanique, finalement. Alors, effectivement, les myopes forts vont avoir un risque d'évoluer vers une atrophie importante de ces zones-là.
Gérard, vous avez donc fait de la photothérapie dynamique, vous avez été traité au laser froid, aujourd'hui vous faites des injections mensuelles dans les yeux. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment va votre vue?
C'est-à-dire que bon, si vous préférez, j'ai eu un processus un peu particulier, en ce sens que le premier œil, on ne me l'a pas soigné du tout. En 1984, on ne savait pas trop. Mais j'ai eu la chance quand même aussi de tomber sur un jeune ophtalmologue qui tout de suite a dit « ça, c'est une dégénérescence maculaire ». Alors il m'a envoyé vers un spécialiste du laser à l'époque qui n'a pas voulu, disons, vu la situation, disons, de l'atteinte visuelle, n'a pas voulu faire quelque chose. Alors le problème, c'est que le deuxième œil, disons, 6 ans après, a eu, disons, les mêmes phénomènes et la médecine avait bien évolué et j'ai été traité dans un hôpital... en région parisienne, l'hôpital intercommunal de Créteil, dans les services du professeur Coscas. Et à cette époque-là, disons, on m'a fait ce laser froid, et ils ont réussi à, je sais pas exactement, disons, à créer comme une espèce de barrière, disons, dans une certaine zone, qui m'a permis, disons, d'être relativement, bien que ma vue a considérablement baissé, puisque je suis passé de 7 à 8 dixièmes, d'un seul coup, disons, à une vision qui est de 1 vingtième, disons, à un œil et 1 cinquantième à l'autre. Bon, je me suis adapté, j'ai cherché des solutions, des solutions techniques, enfin, je me suis battu pour essayer quand même de vivre le plus normalement possible, mais dans mon cas, j'ai toujours eu une excellente vision périphérique. Donc j'ai adapté ma vue, disons, à cette vision périphérique, et je sur le plan du jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, j'ai vécu à peu près normalement. Bon, bien sûr, pas de voiture, pas de ceci, pas de cela, enfin des choses qui sont très très
fortement déconseillées, évidemment.
Tout ce qui est déconseillé. Et bon, j'ai vécu à peu près normalement. Il faut dire que sur le plan familial, j'ai été bien aidé par mon épouse qui compensait, disons, certaines formes de déficience. Et puis, je me suis équipé de matériel, de basse vision.
Oui, c'est ça. Je vois, vous lisez avec un vidéo agrandisseur. Bon, vous bricolez encore un petit peu. Et je sais même que vous jouez de la cornemuse écossaise, puisque ça, vous n'avez pas besoin de lire une partition, vous avez l'oreille. Bravo, écoutez, Gérard, ça c'est une bonne nouvelle.
Oui, et puis bon, j'ai quand même réussi à... J'arrive quand même... Mais je pense que c'est plus mon cerveau que mes yeux, disons, qui ont l'air de fonctionner relativement bien. J'arrive encore, disons, par des formes d'habitude à faire des bricolages, disons, sur les appareils que j'ai, tout ça.
Mais avec très très peu
de vision, en fin de compte.
Mais
bon, il faut se dire qu'il faut prendre le taureau par les cornes, il faut pas se laisser aller, et qu'il faut à tout prix se battre contre cette maladie, quoi. C'est une...
Évidemment.
Voilà, et je pense que quand on a le moral, quand on garde le moral, c'est pour ça que...
Claude avait eu du mal avec le moral, mais vous, c'est un peu mieux. Gérard, je suis désolé, je suis obligé de vous couper parce qu'on a encore beaucoup de monde à avoir sur la ligne. Donc, merci infiniment d'avoir participé, d'avoir témoigné au micro de RFI. Très bonne journée à vous en Midi-Pyrénées. Docteur Raphaël Adon, vous restez avec nous, évidemment. On se retrouve après une petite pause de musique.
Priorité Santé sur RFI.
Oui, vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui provoque la perte progressive de la vision centrale et qui est à ce jour la première cause du handicap visuel chez les plus de 50 ans. Et nous accueillons à présent un deuxième invité, c'est le professeur Jeannette Traoré. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes ophtalmologue à Bamako, professeur en ophtalmologie à la faculté de médecine et d'odontostomatologie, c'est très compliqué à dire, conseillère internationale de la Société francophone d'ophtalmologie pour le Mali. Professeur Jeannette Traoré, est-ce que la DMLA est un problème de santé publique au Mali? Et est-ce que est-ce qu'on a une idée de la prévalence?
Merci pour la question, mais la DMLA n'est actuellement pas un problème de santé publique au Mali. Hein. Nous n'avons pas de prévalence sur cette maladie, mais selon toutes les études qui ont été faites, hein, c'est une maladie qui... les sujets à risque sont surtout les sujets de type caucasien. Donc moi, j'ai fait des recherches, mais en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'études sur la DMLA parce que nous avons d'autres priorités, hein, de santé oculaire, telles que la cataracte, le glaucome, les vices de réfraction, le diabète, qui sont les principales causes de cécité dans notre pays.
D'accord, donc ce n'est pas forcément la DMLA. Est-ce que néanmoins, cette maladie est connue du grand public ?
Bon, cette maladie, disons, le grand public, c'est connu par surtout les intellectuels, hein, qui ont besoin de leur vision de près pour lire et qui suivent, bien sûr, les actualités sur les informations sur les maladies ophtalmologiques, puisqu'on fait beaucoup de d'émissions sur la DMLA, et j'ai souvent des malades qui viennent me voir pour me dire « Ah, docteur, je viens voir vraiment si j'ai pas la DMLA et tout ça ». Mais vraiment, le grand public, c'est trop dire, quoi. C'est les gens qui...
Oui, ceci dit, c'est comme en Europe. Hein. Nous aussi, on ne connaît pas forcément. C'est une pathologie un peu compliquée, oui. un peu technique. Docteur oui. Traoré, est-ce que les traitements sont disponibles au Mali?
Ben non, justement, pour la DMLA, comme a dit le docteur Adam, les injections ne sont pas disponibles au Mali parce que ça coûte excessivement cher.
Ça coûte combien là,
Je crois qu'en Europe, c'est 1000 euros l'injection, hein, une seule injection. Hein.
Docteur Adam, vous confirmez ces prix? Je sais qu'effectivement, c'est un tarif assez élevé.
Pour les tarifs ont nettement augmenté, puisqu'au début, effectivement, au lancement de ces produits, le coût était de 1000 euros l'injection. Alors c'est vrai que maintenant, on est plutôt tombé autour de 600 euros l'injection. En Afrique, je crois que les produits sont disponibles autour de 300 euros l'injection, en fait.
Ce qui reste extrêmement élevé dans le contexte africain. Professeur Jeannette Traoré, du coup, comment faites-vous? Quels sont vos moyens de traitement?
Bon, pour les moyens de traitement, nous, on explique aux malades, on dit aux malades, voilà, vous avez telle maladie, voici les traitements qui sont disponibles. Bon, ceux qui ont les moyens ou bien qui ont des prises en charge, se font commander les médicaments. Ceux qui n'ont pas les moyens, c'est comme ce que le docteur Adam a dit, c'est les mesures hygiéno-diététiques, c'est les compléments alimentaires. Mais sinon, vraiment, on n'a pas d'autres traitements. Bon, je profite aussi pour lancer un appel aux firmes pharmaceutiques pour savoir comment faire pour développer ces produits quand même en Afrique.
Mais pour rendre accessibles les anti-VEGF, c'est le fameux produit qu'on injecte dans l'œil, c'est ça, docteur Adam?
Oui, c'est ça, c'est des anti-VEGF.
Alors, je dirais que c'est primordial de les rendre disponibles en Afrique, parce que c'est des produits surtout qui sont utilisés en Afrique pour les patients africains dans le cadre des diabètes, en fait.
Je précise juste, docteur Adam, que vous connaissez bien le continent africain puisque vous avez formé des ophtalmos sur place. Vous faites également des opérations, notamment au Cameroun. Vous avez opéré des décollements de rétine qui ne se faisaient pas là-bas. Donc, vous connaissez le contexte africain. Hein.
Je connais bien le contexte africain. Je peux vous dire notamment par rapport au coût de ces produits, notamment le Lucentis qui est disponible en Afrique. Il y a la moitié du coût qui est lié aux taxes, que le prix du produit. Je ne sais pas si les décideurs à ce niveau-là peuvent faire un effort, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, pour le diabète, c'est un problème de santé publique en Afrique, parce que là, c'est important de rendre ces produits-là disponibles, quoi.
Professeur Traoré, est-ce qu'il existe des messages de sensibilisation, de prévention autour de la DMLA ou pas?
Bon, en Afrique, ici, non. Au Mali, non. Nous ne faisons pas de messages de prévention pour la DMLA. Vraiment, nous faisons des messages de prévention pour le glaucome, pour les vices de réfraction, pour le diabète, parce que ce sont les premières grandes causes de cécité dans notre pays. Mais pour l'instant, on ne fait pas de messages de sensibilisation pour la DMLA.
Et parce que vous manquez un peu d'ophtalmologues ou pas?
Mais non, si, on a quand même 71 ophtalmologistes, hein. Pour 20 millions d'habitants, on a ce qu'on appelle des optométristes, on a ce qu'on appelle...
71, c'est pas énorme, non?
Oui, mais ils sont épaulés.
Il doit y avoir dans un arrondissement de Paris, donc c'est sûr que...
Bon, 71 ophtalmologistes, c'est qui fait... Ça fait un ophtalmologiste pour 290 000 habitants, mais ils sont épaulés par ce qu'on appelle des infirmiers spécialisés en ophtalmologie, à qui on demande de référer les malades. Lorsqu'on leur apprend, hein, ils ont un cursus de 2 ans, ce sont des infirmiers spécialisés, ils ont un cursus de 2 ans où ils apprennent les maladies de l'œil. Et eux, ils sont sur tout le territoire malien, ils sont 160, et on leur demande de référer les malades suivant les pathologies qu'ils ont apprises, quoi.
Bien écoutez, merci infiniment, professeur Jeannette Traoré. Je rappelle que vous êtes donc ophtalmologue à Bamako, professeur en ophtalmologie et conseillère internationale de la Société francophone d'ophtalmologie pour le Mali. Merci à vous et très bonne journée.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
Docteur Adam, un petit mot sur la recherche. Hein. On arrive déjà malheureusement au terme de cette émission. Quels sont les enjeux de la recherche aujourd'hui?
Les enjeux de la recherche, c'est effectivement de développer des produits qui nécessitent moins d'injections, qui permettent, mais ça va dans le cadre de la DMLA, mais aussi dans le cadre du diabète, comme on a touché deux mots. Ensuite, il y a la thérapie génique aussi qui commence à se développer.
Ça, c'est pour la forme humide de la maladie, c'est ça, la thérapie génique?
Non, c'est plus pour la forme sèche, justement, où on essaye d'améliorer les choses en injectant et en permettant de restaurer un petit peu des cellules dans ces zones atrophiques. Après, c'est vrai qu'on a... Donc je rajouterais juste par rapport au témoignage de tout à l'heure, l'importance aussi de la rééducation basse vision, où on va avoir la possibilité de, en excentrant un petit peu, en apprenant au patient d'excentrer un petit peu ses points de fixation, il pourra lire des choses alors que...
Pour ceux qui ont la vision périphérique, comme disait Gérard tout à l'heure.
Tout à fait, voilà. Et surtout, la prévention, le dépistage et le suivi... Il y a des systèmes un petit peu ludiques qui se développent, des applications sur iPhone comme Audisight là, qui permettent de façon ludique aux patients justement de s'auto-contrôler en jouant un petit peu tous les jours. Et c'est des applications qui sont connectées à l'ophtalmologie, c'est-à-dire que en cas de mauvaise réponse ou en cas de suspicion, l'ophtalmologiste va être prévenu et contactera le patient. Donc il y a beaucoup de choses à faire aussi dans les nouvelles technologies, quoi.
Et un petit point sur la rétine artificielle, où en est-on? Est-ce que c'est une idée qui a fait un peu son chemin? Est-ce que c'est efficace?
La rétine artificielle, c'est quelque chose qui a été développé justement à l'Institut de la Vision là, par le professeur Sahel au Canva, qui est en fait une rétine qui est utilisée surtout pour la rétinite pigmentaire en fait. La rétinite pigmentaire, c'est une maladie héréditaire, génétique, où on va perdre progressivement mais l'ensemble des récepteurs de la vision. C'est-à-dire on va perdre les récepteurs périphériques et à la fin les récepteurs centraux, qui fait que les gens se retrouvent vraiment totalement aveugles, dans le noir, au terme de la maladie. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a la possibilité de mettre ce qu'on appelle une rétine artificielle au fond de l'œil, qui, par des électrodes, c'est relié à une caméra, permettra d'envoyer des stimuli un petit peu au cerveau. Et donc, c'est la première fois qu'on a fait revoir des gens, c'est-à-dire des gens qui étaient dans le noir total. Alors c'est vrai que c'est pas une vision telle qu'on la conçoit à tous, hein. C'est plus des différences de contraste. Les patients vont être capables de suivre une ligne au sol ou de visualiser un entrebâillement de porte. Mais c'est vrai que c'est des choses
C'est mieux que rien, évidemment. C'est déjà un bon début. En tout cas, on notera que la recherche est active et c'est une très bonne nouvelle. Merci infiniment, docteur Raphaël Adam, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes chirurgien ophtalmologue au Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des 15-20 à Paris. Merci à vous et belle journée. Et on retrouve à présent notre chronique nutrition avec Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé et Diabète. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on se demande si la vitamine D a un rôle dans la prévention des formes graves du Covid-19. Mais pour commencer cette chronique, Stéphane, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la vitamine D?
Alors, il faut tout d'abord rappeler que les vitamines sont des micronutriments qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme et qui, dans la majorité des cas, ne sont pas synthétisés par notre corps. Alors, pour une majorité de vitamines, l'apport par notre alimentation est donc totalement indispensable. Alors, la vitamine D fait exception à cette règle puisqu'elle est synthétisée partiellement dans la peau sous l'effet des ultraviolets, donc du soleil. La vitamine D joue trois grands rôles dans notre organisme. En premier lieu, elle permet l'absorption et l'utilisation du calcium et du phosphore qui vont permettre le développement et le maintien de notre structure osseuse. Ensuite, elle permet la différenciation et la prolifération des cellules. Et enfin, elle participe au bon fonctionnement des fonctions immunitaires, c'est-à-dire de notre système immunitaire.
Mais alors, quel est le lien entre vitamine D et coronavirus, Stéphane ?
Alors, l'histoire commence dans les dernières semaines. Quelques études ont été publiées dans des journaux scientifiques de grand nom, faisant un lien entre la carence en vitamine D et les formes graves du Covid-19. Alors malheureusement, ces études très préliminaires ont été immédiatement reprises par les fabricants vendant des suppléments en vitamines, comme par exemple la société Willis Fitness, qui a rapidement lancé une campagne de promotion mettant en avant le besoin de supplémenter en vitamine D en déclarant que les experts recommandent de compléter avec 2000 unités internationales de vitamine D par jour pour soutenir une fonction immunitaire saine. Et enfin, tout ça s'est retrouvé rapidement sur Internet, comme souvent, avec des articles raccourcissant tout ça, expliquant que la vitamine D permettait de prévenir l'infection par la maladie à coronavirus.
Et si on se réfère donc aux données scientifiques publiées, qu'en est-il réellement ?
Alors, tout d'abord, il faut bien dire et redire, c'est très important, que la vitamine D ne prévient en rien l'infection par le Covid-19. Alors, pour prévenir cette infection, il faut respecter les mesures de prévention qui sont maintenant bien connues, mais qu'il est bon de rappeler à chaque fois. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec du savon et de l'eau ou des solutions hydroalcooliques, maintenir une distance d'au moins 2 mètres avec les autres personnes, éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche, porter un masque et enfin, si vous toussez ou éternuez, le faire dans le pli du coude ou dans un mouchoir à usage unique. Alors si on revient aux études maintenant, elles ont mis en évidence un lien entre une carence en vitamine D et la gravité des formes de Covid. C'est ça qu'il est important de noter. L'étude la plus commentée, qui a été réalisée par une équipe américaine, a montré que les personnes carencées en vitamine D auraient 15% de risque en plus de développer une forme sévère de la maladie et 2 fois plus de risque de décéder que les personnes qui ne sont pas carencées. Donc les auteurs émettent 2 hypothèses préliminaires pour expliquer ces résultats. La première, c'est qu'il y aura un possible rôle modérateur de la vitamine D sur la tempête du système immunitaire qui se produit après l'infection par le Covid-19, et aussi une possible réponse plus forte de système immunitaire face aux infections respiratoires de manière globale, dont font partie la famille des coronavirus.
Alors avec ces résultats préliminaires, est-ce que vous recommandez une supplémentation en vitamine D justement ?
Alors il faut d'abord bien rappeler que ces études sont préliminaires et que d'autres études sont en cours. Donc il ne faut pas là non plus commencer à faire un tableau trop rapide, il faut bien attendre les résultats finaux. Il ne faut pas non plus se faire piéger par les sites internet qui se précipitent sur ces premiers résultats pour faire croire à une solution miracle contre le Covid. Alors, et même si ces résultats venaient à se confirmer, moi je ne recommande pas de prendre des suppléments en vitamine D. Alors pourquoi ? Bah, tout d'abord parce que l'excès d'apport en vitamine D peut avoir des effets toxiques, mais aussi et surtout car il est très facile d'éviter la carence en vitamine D à partir de 2 sources d'apport très naturelles de cette vitamine pour notre organisme. Alors la première source, c'est la lumière, comme on l'a dit au début, la chronique du soleil sur notre peau qui permet de produire des milliers d'unités internationales en vitamine D. Alors une étude menée au Royaume-Uni montre que 13 minutes d'exposition au soleil en été, seulement 3 fois par semaine, permet de maintenir un bon niveau de vitamine D chez l'adulte. Ensuite, il y a bien sûr l'alimentation qui, même si elle apporte des doses plus faibles de vitamines, vient compléter cette production naturelle. Donc on la retrouve, cette vitamine D, en grande quantité dans des poissons comme le saumon, le tilapia qu'on appelle la carpe en Afrique, le hareng, mais aussi en quantité intéressante dans le lait ou les œufs. Donc j'aurai 2 messages simples à retenir pour éviter naturellement la carence en vitamine D et être en bonne santé. Sortez régulièrement prendre le soleil avec toutes les précautions nécessaires et adoptez une alimentation équilibrée et diversifiée.
Merci infiniment pour cette chronique nutrition, Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé et Diabète. Bonne journée Stéphane, à bientôt.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette émission préparée par Assetou Samaké, Ophélie Lassène. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu avec la complicité de Raphaël Lazizi. Demain, nous parlerons du vitiligo, une maladie chronique de l'épiderme caractérisée par une dépigmentation et l'apparition de taches blanches sur plusieurs zones du corps. Alors, quelles sont les causes du vitiligo? Comment est-il pris en charge? C'est ce que nous verrons demain. Passez une très bonne journée à l'écoute de RFI et surtout, surtout, prenez soin de vous.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.